Voice of Indonesia.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, 25 avril 2019. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. L'arbre suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter également une chanson indonésienne. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers fidèles auditeurs, auditrices, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le vice-président d'Indonésie s'est rendu à Pékin pour assister au sommet Une ceinture, une route. L'autorité considère que le rôle du terminal international du conteneur de Jakarta est de plus en plus important pour encourager la compétitivité. Inacraf 2019 cible la transaction de 149 milliards rupiah. Le ministère des Affaires maritimes s'assure le projet d'initiative de ceinture et de route utilise le système B2B. Les investisseurs néerlandais souhaitent construire des installations d'eau potable à Sulawesi du Sud. Et enfin, l'expédition de Pinisi forme des pêcheurs traditionnels pour soutenir le tourisme. Voici le journal complet. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla s'est rendu mercredi à Pékin en République populaire de Chine pour assister au deuxième sommet d'une ceinture d'une route ou au deuxième sommet de la SOA. Yusuf Kalla a déclaré que lors de la réunion, les participants discuteraient de l'accélération du développement des pays membres d'une ceinture d'une route. Antara a rapporté qu'une ceinture d'une route est un projet initié par la Chine visant à créer des lignes de soie modernes entre les pays. Avec ce projet, la Chine a développé une nouvelle route commerciale et relie les zones les plus proches. En plus d'assister à la conférence internationale, Yusuf Kalla devait rencontrer le président chinois Xi Jinping et déjeuner avec le vice-président Wang Qishan. Hermanta, chef de l'autorité portuaire principale de Jakarta, Tanjung Priok, a estimé que le rôle du terminal international de conteneurs de Jakarta, JICT, à Jakarta est de plus en plus important en ligne avec les efforts du gouvernement pour renforcer la compétitivité industrielle. Hermanta, à Jakarta, mercredi, a déclaré JICT devait être en mesure d'attirer les clients d'exportation d'importation et de fournir de meilleurs services. De plus, Tanjung Priok est le 26e port le plus occupé au monde et le port le plus actif en Indonésie. Il a ajouté qu'en regardant le développement des infrastructures portuaires en Indonésie, le port pourrait être un secteur capable d'accroître la compétitivité et l'économie nationale, comme indiqué dans le rapport du Global Competitiveness Report 2018. Comme cité par Antara, ce rapport indiquait que si l'Indonésie pouvait maintenir et améliorer les performances et la compétitivité, cela pourrait augmenter les revenus plus élevés et plus durables. Le comité organisateur de la 21e Foire internationale de l'artisanat, ou INACRAF 2019, fixe des objectifs d'atteindre les contrats commerciaux de 13 millions de dollars américains et 149 milliards rupiah de ventes au détail lors de la réunion qui se tiendra à Jakarta Convention Center, JCC, du 24 au 28 avril. C'est ce qu'a affirmé l'agent chef de l'Association indonésienne des exportations et des producteurs de l'artisanat, Asafi Gusmardi Bustami, à Jakarta. Asafi Azira, en tant que comité organisateur de l'événement qui sera ouvert par le président Joko Widodo et devrait attirer 1000 acheteurs de 60 pays. Gusmardi Bustami a déclaré à Jakarta que l'événement annuel organisé depuis 1999 mettrait en lumière l'art et la culture de Betawi et adopterait le thème central du village intelligent au marché mondial. 1700 participants participeront à l'événement, comprenant des administrations régionales, des ministères, des entreprises publiques et des particuliers. Il a exprimé l'espoir que les artisans de la région seraient en mesure d'élargir leur marché au niveau national et international. INACRAF 2019, cette fois, le pavillon des étrangers était présent pour la première fois, à savoir le Maroc. Outre le Maroc, plusieurs pays amis y participeront, tels que le Japon, la Pologne, le Pakistan et Hong Kong. Le ministre indonésien chargé de la coordination des affaires maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, assure que le projet inclus dans le programme Initiative de Ceinture et de Route, initié par la Chine, utilise le programme Business to Business. La collaboration s'opère maintenant entre entités commerciales directement sur le projet. Le ministre Luhut à Pékin, mercredi, a déclaré que le rôle du gouvernement a seulement facilité la réunion de chaque entité commerciale des deux pays. Selon le ministre, le gouvernement mène actuellement une étude de faisabilité avec des investisseurs chinois pour plusieurs projets proposés dans le 10e sommet de l'initiative de Ceinture et de Route. Luhut est arrivé à Pékin mercredi matin pour assister au sommet. Le gouverneur de Sulawesi du Sud, Nurdin Abdullah, a déclaré qu'un certain nombre d'investisseurs néerlandais s'étaient rendus à Makassar pour discuter de diverses possibilités de coopération, notamment le souhait de construire des installations d'eau potable à Sulawesi du Sud. Le gouverneur de Sulawesi du Sud, Nurdin Abdullah, à Makassar, a également offert ce potentiel de gestion de l'eau potable à Pangkep, Wajo, Sopeng et d'autres régions à ses investisseurs. La délégation des entrepreneurs néerlandaises est dirigée par le député aux affaires économiques de l'ambassade des Pays-Bas pour l'Indonésie, Huus Nuijen. La plupart des délégations possédaient une expertise dans le secteur du traitement de l'eau. Les sociétés qui veulent investir dans le sud de Sulawesi sont Boskalis, Deltares, Angel Dot Water, MDF Pacific Indonesia, Uasa Architect, PT Pelabuhan Rotterdam, Royal Haskoning Indonesia, Royal IHC, Simavi, et Vestagen Spies. L'expédition de Pinisi Bakti Nusa organisée par l'Association Indonésienne des Sarjana Marines, le ministère des Affaires Maritimes et de la Pêche et l'Agence des Télécommunications et le ministère indonésien de la Télécommunication et de l'Informatique ont organisé une formation aux pêcheurs traditionnels à Labuan Bajo, Nusa Tenggara Est. Le coordinateur du programme d'expédition de Pinisi, M. Abdi Shuhufan, a expliqué dans un communiqué de presse reçu par Antara mercredi que l'expédition de Pinisi Bakti Nusa organisera une campagne et une formation sur le traitement du poisson capturé et l'utilisation d'applications d'Internet pour les pêcheurs afin de soutenir le développement du tourisme à Labuan Bajo. Cette activité a eu lieu du 24 au 25 avril au port de Labuan Bajo. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Voice of Indonesia. Serviteur, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, le chagrin au Sri Lanka. Il y a 5 semaines, une attaque choquante a eu lieu dans un lieu de culte en Nouvelle-Zélande. Et le monde a été choqué également par les attentats à la bombe dans des lieux de culte et des hôtels dimanche le 21 avril 2019 à Colombo, capitale du Sri Lanka, et dans plusieurs autres villes. L'incident a tué 321 personnes, dont 38 étrangères. Cet événement s'est produit presque simultanément lorsque plusieurs personnes ont fait exploser des attentats suicides. Les autorités de Colombo ont accusé l'incident a été fait par un groupe local qui a prétendu être affilié à certaines religions. Mais immédiatement, une déclaration de responsabilité a été émise par un groupe affilié à ISIS. La police a arrêté au moins 40 personnes après l'incident. Les enquêteurs cherchent encore s'il existe un lien entre les groupes terroristes locaux et les réseaux mondiaux. La partie responsable de l'attaque a déclaré que cet événement avait un lien avec les événements en Nouvelle-Zélande. Le Sri Lanka est un pays qui connaît des conflits depuis plus de 25 ans. La guerre civile a éclaté entre le gouvernement sri-lankais et les rebelles Tigray Tamul qui contrôlaient la région nord-est du Sri Lanka. La rébellion pourrait prendre fin en 2009. Il y a 10 ans, le Sri Lanka sentit la vie sans conflit signifiait qu'il existait des frictions entre la majorité des bouddhistes, des hindous et des musulmans. L'attaque d'hier était signalée par des réseaux de renseignements étrangers. Malheureusement, ces informations n'ont pas été transmises aux responsables politiques gouvernementales du manque d'harmonie entre le président Maithripala Sirisena et le premier ministre Wickremesinghe. Nous espérons toujours qu'il n'y aura plus d'événements comme celui-ci. Les victimes sont des civils. Ce n'est pas la guerre, mais le massacre. Toute croyance n'enseigne pas de tels actes cruels. Espérons que cet événement rendra chaque pays plus vigilant en matière de maintien de la sécurité, car cet événement peut se produire n'importe où dans le monde. Chers auditeurs, c'était le commentaire de la Voix de Minzi à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 25 avril. Le 25 avril 1950, les rebelles ont formé la République de Maluku du Sud. La République de Maluku du Sud, ou abrégée en RMS, a été proclamée aux îles Maluku le 25 avril 1950. Les plus grandes îles étaient Seram, Ambon et Buru. Le RMS d'Ambon a été défait par l'armée indonésienne en novembre 1950, mais le conflit à Seram s'est poursuivi jusqu'en décembre 1963. La défaite à Ambon a entraîné le déplacement du gouvernement de RMS à Seram, qui a ensuite formé un gouvernement en exil aux Pays-Bas en 1966. Lorsque le chef des rebelles, Dr. Chris Somokil, a été arrêté par l'armée indonésienne et exécuté en 1966, le président en exil a été inauguré aux Pays-Bas. Ensuite, la révolution des œillets au Portugal qui a eu lieu le 25 avril 1974. Un coup militaire pacifique a renversé le gouvernement de Marcelo Caetano, héritier de la dictature de Salazar, qui a eu lieu à Lisbonne, au Portugal, le 25 avril 1974. Un coup d'État appelé la Révolution des œillets a été dirigé par le général Antonio. Le nom de la Révolution des œillets vient du fait qu'aucun coup de feu n'a été tiré. Lorsque les gens ont commencé à présenter dans les rues pour célébrer la fin de la dictature, des œillets ont été placés sur les museaux des armes ainsi que sur les uniformes. Cet événement a effectivement transformé le régime portugais de dictature autoritaire en démocratie et a entraîné des changements majeurs dans les relations entre les affaires sociales, économiques, territoriales, démographique et politique du pays. Le 25 avril est la Journée mondiale du paludisme. La Journée mondiale du paludisme est célébrée dans le monde tous les 25 avril de chaque année. Cette date a été choisie pour coïncider avec la date de la signature de la déclaration d'Abuja du 25 avril 2001 par 44 chefs de pays d'un demi-palustre. La détermination de la date en tant que journée mondiale du paludisme a été approuvée lors de l'Assemblée mondiale de la santé le 23 mai 2007 à Genève, à laquelle ont participé 192 pays membres de l'Organisation mondiale de la santé, ou abrégé en l'OMS. En Indonésie, la Journée mondiale du paludisme a été commémorée pour la première fois le 25 avril 2008. C'est toute l'histoire d'aujourd'hui.
menantikan yang terdahulu. Teriak menantikan badai berlalu.
Merci d'écouter la voix de l'Irnésie diffusée depuis Jakarta. C'était la première chanson intitulée Voix chantée Gak. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Irnésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, écoutons maintenant Mon Irnésie. Merci d'écouter la voix de l'Irnésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici Mon Irnésie, intitulé « L'Irnésie invite les millénaires à prendre soin de l'environnement ». Le ministère de l'Environnement et des Forêts a pour objectif de réduire 30% les déchets indonésiens en 2025. Afin de soutenir cette mission, l'une des banques privées indonésiennes a fait un mouvement de protection de l'environnement intitulé Plus de recyclage, moins de déchets, en collaboration avec des entrepreneurs sociaux et des communautés engagées dans l'environnement, entre autres WWF Indonésie et la directrice exécutive de la Banque privée nationale indonésienne, Madame Mona Monica, a expliqué que le programme Plus de recyclage, moins de déchets impliquait toutes les générations d'Indonésie, notamment les millénaires, à être plus critique vis-à-vis de l'environnement, comme par exemple en signalant l'accumulation illégale de déchets. Ce mouvement a pour objectif de sensibiliser la génération du millénaire aux soins de l'environnement afin de susciter des changements à partir des habitudes quotidiennes. Mona à Jakarta a déclaré lundi qu'à travers ce mouvement, on espérait la génération du millénaire pourrait s'engager à créer l'environnement propre et promettait de participer au mouvement de plus recyclage, moins de déchets. Selon Mona Monica, le changement ne commence pas avec quelque chose de grand et de difficile, mais il peut être fait en commençant à faire le bien et changer les habitudes peu à peu pour que l'impact se fasse sentir plus tard à long terme. Un autre, à travers ce mouvement, au moins, il peut faire appel au public de rapporter l'accumulation de déchets dans le voisinage qui sera ensuite rapporté aux parties concernées. L'astuce consiste à signaler via Instagram ou Twitter. Elle souhaite que toutes les générations en Indonésie, notamment les millénaires, seront plus critiques vis-à-vis de l'environnement, notamment en rapportant l'accumulation de déchets illégaux. La communauté qui s'est engagée à soutenir le mouvement de plus de recyclage moins de déchets avec les meilleurs téléchargements a la possibilité de gagner le package hashtag travel for good, à savoir voyager tout en faisant du bénévolat dans les destinations touristiques indonésiennes pour 3 gagnants. Chers amis, c'était Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Beri yang terbaik untuk negeri ini.
Voice of Indonesia.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée Nusantaraku chantée par Marcel. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter Magazine Culturel. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici Magazine Culturel intitulé Le Musée de la Terre et de l'Agriculture. Le 22 avril, le ministère de l'Agriculture de la République d'Indonésie a inauguré le Musée de la Terre et de l'Agriculture. Il est le premier musée agricole indonésien à l'échelle internationale. Les anciens ministres et vice-ministres de l'Agriculture ont également assisté à l'événement. M. Suswono, le ministre de l'Agriculture de 2009 jusqu'à 2014, a souhaité que ce musée puisse stimuler l'enthousiasme de la génération du millénaire pour s'impliquer dans l'agriculture. Parce que selon lui, le secteur de l'agriculture jusqu'à présent est un secteur promoteur. Le Musée de la Terre et de l'Agriculture est situé sur la rue Juanda Bogor dans l'ouest de Java. Il comprend 4 bâtiments principaux. Le Musée de la Terre est situé dans le bâtiment A et le Musée de l'Agriculture dans les bâtiments C et D. Sous le thème « Connecter le passé au futur », le Musée de la Terre et de l'Agriculture invite tous ceux qui viennent d'explorer le développement de l'agriculture indonésienne de temps en temps. Le concept de ce musée est très unique, n'est pas monotone et n'est pas ancien. Le musée est fait pour être interactif, éducatif et instagrammable. Maintenant, le processus de mécanisation de l'agriculture utilise des drones, des applications du marché de l'agriculture intelligente et les tracteurs sans équipage avec le système de positionnement mondial. Vous pouvez également déguster du café, du thé et du cacao indonésien dans coin café disponible. Au quatrième étage, il y a divers grains hydroponiques et plantes fruitières, tout en regardant directement le mont de Salak et Gede Pangrango depuis le sommet du bâtiment. Et pour ceux d'entre vous qui sont intéressés à visiter le Musée de la Terre et de l'Agriculture, visitez-le maintenant parce que jusqu'aux 3 prochains mois, l'entrée au musée est toujours gratuite. Chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Senyum di bibir manismu, cintaku.
Chers amis des quatre coins du monde, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Apprécier » chantée par Stéphanie Putri. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, vous allez écouter « Mon Indonésie » et cette fois, nous allons vous présenter le Festival Marang de Sabang 2019.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers auditrices et auditeurs dans le monde entier, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, intitulée Festival Marang de Sabang 2019. Du 26 au 30 avril 2019, l'Agence d'exploitation régionale de Sabang et le Bureau de tourisme et de la culture d'Aceh vont organiser le Festival Marang de Sabang 2019 sur l'île de Weh, la ville Sabang à Aceh. Cet événement international annuel a été organisé depuis l'an 2016 afin de faire de Sabang une destination maritime mondiale. Le gouverneur par intérim d'Aceh, Nova Iriansyah, a déclaré que le festival marin de Sabang 2019 est un lieu de rencontre pour les clubs de yacht nationaux et étrangers, tout en promouvant le tourisme d'Aceh. Monsieur Jamaluddin, directeur du Bureau de la culture et du tourisme d'Aceh, espère qu'à travers cette activité, Sabang continuera à être une région visitée par des navires de croisière autres que Phuket et Langkawi. Trois navigateurs sont inscrits pour suivre l'agenda international qui se tient régulièrement chaque année. Ils viennent de la France, d'Amérique, d'Australie, Thaïlande et Singapour. Cette année, le festival marin de Sabang ne montre que seulement la beauté du panorama naturel, mais aussi présente une variété de cultures locales aux touristes. Cette année, les touristes seront invités dans le village touristique Jaboy, Anne Laut et Kruang Jaya. Dans ce village, les navigateurs découvriront la culture locale. Dans le village Jaboy, les touristes découvriront comment fabriquer du poisson en bois, fabriquer du copra, un râpé de noix de coco et rejoindre la concurrence populaire. Au village de Anek Laut, on leur présentera des façons de préparer des gâteaux traditionnels et des attractions culturelles. Pendant le séjour dans le village de Kruang Raya, le processus de fabrication de poissons salés sera présenté et il est prévu de déjeuner avec la communauté. Tout en organisé comme une collaboration du tourisme halal et du tourisme maritime à Banda Aceh. Outre à Sabang, les touristes ont également été invités à visiter la ville de Banda Aceh pour voir le site du tsunami et introduire le tourisme halal. Cette année, le festival marin de Sabang proposera également diverses activités, notamment une cérémonie d'ouverture, un dîner, une visite de la ville, un spectacle de paramoteurs et vélos et promenades amusantes. Cet événement affecte certainement les revenus de la communauté dans les domaines des services, des guides touristiques, des transports, des attractions, des visites culinaires, des attractions touristiques et aussi des paquets touristiques. C'était l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie à Jakarta.
Jiwamu yang baru kini bertata bintang.
Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Les gagnants chantent, Rennes et Toulouse ». Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons présenter une chanson indonésienne.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie. Voici le programme musical. Pour l'édition de ce soir, nous allons vous présenter une chanson de Helen Sparinga. Le nom Helen Sparinga commence à être reconnu en Indonésie depuis la sortie de l'album intitulé Mon Amour Bleu en 1985. Cet album est soutenu par Obi Mesa, Wahyu O.S. et Dedi Dores en tant que chanteur invité. En outre, le nom de Mus Mulyadi est également apparu sur plusieurs chansons de cet album en tant que compositeur. La chanson principale dans cet album est Mon Amour Bleu. Cette chanson composée par Obi Mesa raconte deux amoureux qui aiment mais séparés parce que l'homme a un autre amoureux. Chers auditeurs, voici donc Helen Sparinga avec sa chanson intitulée Mon Amour Bleu. Bonne écoute.
Thank you.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Chers auditrices, auditeurs dans le monde entier, cette émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.